Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, ici Lucie, la reine, l'émission d'information locale de Canal B s'apprête à commencer. Et au menu aujourd'hui, l'info du jour, bientôt des immeubles surélevés dans Rennes Métropole pour répondre à la crise du logement. Deux reportages d'abord avec Le Temps du Regard, projet associatif d'accompagnement de personnes en situation de handicap. Puis le deuxième portrait de bénévole de Canal B, aujourd'hui Yannick de Metal Injection. Il y aura de la musique dont une nouveauté et puis la recommandation du jour, deux événements à vivre samedi à Rennes. Bienvenue dans l'arène. Et on lance l'émission d'information locale du jour avec une info que j'ai retenue pour vous dans ce qui se raconte dans les médias locaux. Aujourd'hui, on parle de Rennes Métropole qui songe à surélever certains immeubles. Une réponse à la crise du logement et au foncier disponible qui est de plus en plus limité, notamment avec l'objectif zéro artificialisation nette à atteindre d'ici 2050. Il s'agit donc de relever deux défis, l'un social et l'autre écologique. Cette idée de surélévation, elle a été développée lors d'un point presse jeudi 21 mars. D'abord, il y a d'autres territoires qui portent la même réflexion. Saint-Nazaire agglomération, Lyon métropole, la métropole de Strasbourg aussi, où 16 500 bâtiments ont été identifiés comme potentiellement surélevables. Et à Rennes, déjà, des immeubles ont pu être surélevés. Par exemple, au-dessus d'une ancienne CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie qui était rue Saint-Martin. Autre exemple, Archipel d'Habitat vient de lancer une étude pour rénover et surélever cette fois la résidence autonomie du Colombier. Alors pour accélérer le mouvement, une étude est en train d'être conduite avec Up Factor pour identifier des bâtiments dans Rennes Métropole. Up Factor, c'est une entreprise parisienne qui accompagne depuis 5 ans des copropriétés, des bailleurs sociaux et des collectivités avec une mission à développer de nouveaux mètres carrés en zone urbaine dense. Les résultats de cette étude, ils seront donnés à l'été 2024, donc très bientôt. On peut déjà dire que trois périmètres sont à l'étude. Rennes et ses communes voisines d'abord, puis les communes qui sont hors cœur de métropole, mais concernées par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Et puis le troisième périmètre comprendra plus tard les communes qui ne sont pas directement concernées par cette loi. On précise que dans le cas de surélévation, il s'agirait d'augmenter les immeubles existants de 1, 2 ou 3 étages. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'un premier reportage. Et on prend la direction d'Assigny, où un nouveau service du Temps du Regard est en train de voir le jour. Cette association, elle accompagne depuis 1986 les personnes en situation de handicap à travers des accueils de jour, où l'accent est mis sur la pratique artistique, et puis aussi à travers une offre de logement adapté. J'ai promené mon micro lors d'une résidence d'artistes organisée toute la semaine, l'occasion de présenter ce projet associatif et puis deux événements à venir au mois d'avril pour les soutenir.
Tu veux découvrir ton image?
Oui, j'aimerais bien.
Waouh! Ça te plaît?
Ok, oui.
C'est beau.
Est-ce qu'on peut dire ce qu'il y a dessus?
C'est un alien. J'ai un peu de mal à dessiner. Là, je trouve que j'ai très bien réussi à le faire.
Je trouve ça hyper beau, moi aussi.
Merci.
Alors là, on est du coup à Assigny, au niveau de la maison de voisinage. Et du coup, de lundi 18 mars à vendredi 22 mars, nous avons une semaine de résidence d'art qui est vraiment ouverte pour les personnes que nous accueillons en accueil de jour et en foyer aussi de vie, et qui regroupe du coup divers ateliers gérés par les plasticiens de l'association. Et ces ateliers vont permettre de créer plein d'œuvres qui vont ensuite venir être choisies en partie pour être mise à disposition au sein de l'artothèque d'Assigny. Une artothèque, c'est le même concept qu'une bibliothèque, sauf qu'on peut emprunter des œuvres d'art. Donc bonjour, moi je suis Lucie, la chargée de communication de l'association Le Temps du Regard.
Bonjour, donc Didier, je suis responsable des animations transversales, c'est-à-dire de l'ensemble des services, et du développement associatif, mais j'ai été longtemps aussi chef de service des hébergements de l'association. L'association du Temps du Regard existe depuis 1986. Elle gère deux types de services, des accueils de jour et des hébergements. On est implanté sur différentes communes autour de Rennes, donc il y a Rennes, bien entendu, le siège historique, on va dire.
Qui est dans le quartier Maurepas, donc.
Qui est dans le quartier Maurepas. En plus de Rennes, donc on a des services qui sont sur la commune d'Assigné, de Montgermont et de Passé.
Ça représente combien de personnes qui sont accompagnées, que ce soit en accueil de jour ou en hébergement ?
Alors, il y a à peu près une petite centaine de personnes accompagnées au niveau des accueils de jour et une vingtaine de personnes hébergées. Les particularités du public qu'on accompagne, en fait, on est une association mais qui n'est pas spécifiée au niveau de l'accompagnement d'un handicap particulier. L'originalité, si on veut, du Temps du Regard, c'est d'accueillir des personnes de différents types de handicap. On a des personnes qui ont un handicap physique, d'autres intellectuels. On s'adresse à des personnes qui peuvent être déficientes, qui ont des maladies psychiques plus ou moins stabilisées, problématiques de type autistique. Voilà, ce sont des adultes, en tout cas, que l'on accompagne.
Pour la partie accueil de jour, ça va être vraiment faire des activités, leur permettre de sortir de chez eux et de s'occuper. On est une association qui travaille beaucoup la question des arts, de la culture. Ce qui fait qu'on a des équipes qui sont pluridisciplinaires. On est à peu près 50 salariés, si je ne me trompe pas, avec tout type de profil, on va dire, et notamment des plasticiens qui vont permettre aux personnes de s'exprimer un peu différemment en passant par les arts. On a aussi un conseil d'administration qui comprend à peu près 13-14 personnes, je crois, qui sont bénévoles, donc il est là pour gérer l'association en elle-même, s'occuper de différents projets associatifs, notamment à Assigner, on a un gros projet de construction d'un nouveau foyer de vie, accompagné aussi d'un accueil de jour et d'une maison de voisinage qu'on mène un petit peu depuis presque 10 ans, mais qui voit très bientôt le jour.
C'est sur ce lieu qu'on se retrouve aujourd'hui.
Ouais, tout à fait.
En fait, on est une association qui essaie vraiment de répondre aux besoins des personnes. Donc en fait, au tout début, le Temps du Regard était un des tout premiers en France à créer un accueil de jour pour personnes en situation de handicap. Et en fait, à partir du moment où les gens étaient accueillis en journée, ces personnes-là ont souvent réclamé d'avoir leur chez-eux, comme leurs frères ou sœurs, qui quittaient le domicile familial. Et à partir de là est né le besoin de créer des hébergements. On a dû faire face à une demande de plus en plus importante. Voilà pourquoi, après un premier foyer en 1996, on a créé un deuxième foyer en 2004. On a aussi 3 appartements qui sont diffus, c'est-à-dire que les personnes habitent des logements sociaux. Donc compte tenu des besoins, voilà pourquoi on est arrivé au projet du foyer d'Assigné, où il y aura 16 personnes accueillies fin 2025 à peu près.
C'est la première semaine de résidence d'art parce que l'Artothèque, c'est un projet très récent. On a un petit peu de tout, on a du collage, de la peinture, du stop motion, de la gravure aussi. Donc c'est assez divers et c'est des ateliers en général que les personnes peuvent déjà faire dans les services, donc elles connaissent aussi un petit peu les techniques. Et au contraire, il y en a d'autres qui découvrent des nouveaux ateliers.
Est-ce qu'on peut dire ce que permettent ces moments-là aux participants ?
C'est aussi beaucoup un travail d'expression parce que les personnes sont vraiment libres de faire ce qu'elles veulent.
Il y a aussi une dimension collective. Est-ce que pour certains, ça peut être perçu comme un défi ou est-ce que c'est forcément un plaisir de se retrouver à plusieurs ?
Je pense en fonction des pathologies de chacun, ça peut être effectivement un défi ou même découvrir des nouvelles personnes parce que je ne suis pas forcément sûre que tous se connaissent, comme ils ne fréquentent pas forcément les mêmes services.
Les personnes qui participent donc à cette semaine des arts viennent soit des accueils de jour, mais aussi viennent des hébergements de Montgermont ou de Passé.
Mais ça peut être aussi des temps qui, je pense, sont appréciés, au contraire, pour partager plein de nouvelles choses ensemble.
C'est quoi, c'est du stop motion que vous faites ?
Stop motion, oui.
On essaye.
On sait pas ce que ça va donner.
Nathalie, je suis actuellement plasticienne sur le temps d'agir.
Le temps d'agir, c'est l'accueil de jour de Rennes.
Ça fait 20 ans que je suis sur Rennes et puis j'ai commencé à l'animation.
Et la pratique plastique, elle est arrivée quand ?
Elle est arrivée en 2018, je dirais. Comme j'avais fait les Beaux-Arts, voilà, j'ai fait plein d'emplacements de mes collègues. Et puis, à un moment donné, on m'a dit, on va pouvoir te donner quelques ateliers. Donc, j'en ai eu deux au départ. Et puis, en fin de compte, j'en ai quatre.
Sur quelle pratique ?
Alors, plus du dessin, de la peinture, actuellement, que d'autres choses. Le mardi, c'est de la mosaïque.
Et à quoi ils ressemblent ces moments de création ?
Il y a des gens, ils veulent reproduire des peintures de grands artistes et tout. Il y en a qui veulent inventer. Il y en a, c'est du coloriage. Ils remplissent des choses qui sont déjà dessinées. C'est vraiment plein d'expériences.
Mais vous êtes bien au temps du regard, donc ?
Ah oui. Ouais, ces ateliers-là sont particulièrement... intéressant, enrichissant. Ouais. Et puis, ça m'amène une petite zénitude dans le reste de la semaine.
Je m'appelle Pauline. Dans l'asso, je suis plasticienne, en fait. Je travaille dans les accueils de jour où il y a des ateliers qui sont vraiment en fixe, quoi. Donc, à Morpa, au temps d'agir, et aux Acanthes, c'est à passer. Je propose à chaque fois de la peinture, du dessin, de l'argile et de la gravure. Et du coup, là, sur cette semaine un peu particulière où on avait envie de faire découvrir vraiment des pratiques, là, moi, je fais que de la gravure, par exemple. Ce matin, on a fait de la gravure sur Tetra Pak, c'est-à-dire qu'on grave sur une surface métallique une image qu'on imprime après avec une presse. Alors que là, c'est des procédés d'imprimerie qui sont très vieux et qui peuvent permettre vraiment de tester plein de choses au niveau du papier, des couleurs, des matières.
Donc là, tu vois, on va mettre deux lampes là-dessus. Et toi, pour ta gravure, tu vas voir, après, on va effacer. L'encre, elle va aller juste dans les creux que tu as fait.
Bon, en fait, je travaille pas à plein temps pour l'association. Donc j'ai ma pratique personnelle par ailleurs avec mon atelier perso. Et voilà, j'interviens dans l'asso 3 jours par semaine.
Et comment vous vous êtes retrouvée dans cette association ?
Je me suis retrouvée là parce que j'avais à un moment donné envie de sortir de ma pratique solitaire. Voilà, travailler avec des gens, ça me plaît. Et j'ai toujours été dans l'idée que l'art devait être accessible à tout le monde. Donc c'est ce que je fais en fait avec cette asso, c'est que... J'essaye de mettre ma pratique entre les mains d'un public qui n'a pas forcément accès à l'art.
Ma dernière question, c'est de savoir si le handicap était peut-être, j'allais dire, un frein dans la pratique ou qu'il fallait en tout cas l'adapter par certains points de vue, peut-être techniques ou matériels, ou si au contraire ça pouvait permettre d'autres choses et puis d'autres façons de créer.
Alors pour moi, ce n'est pas du tout un frein dans la pratique. Il y a toujours manière d'adapter en fait les outils pour que chacun puisse s'en emparer. Ça, c'est mon point de vue. Et je trouve que ce public-là a parfois beaucoup moins de filtres en fait que des personnes. Ça m'arrive de faire des interventions aussi dans d'autres milieux, que ce soit dans les médiathèques ou des ateliers plus privés. Et pour moi, je prends... les personnes de la même manière. On a tous des barrières, des filtres qui peuvent empêcher de créer. Et avec eux, c'est pareil.
Je viens de Bréal-sous-Montfort et je m'appelle Nicolas.
Vous avez quel âge ?
50. Ce matin, j'ai dessiné un chat sur une feuille. Et après, je l'ai reproduit... sur une plaque pour faire de la gravure.
Comment on pourrait le décrire, votre chat ?
Il ressemble à mon chat parce que moi j'adore les animaux et je défends les animaux.
Il s'appelle comment, votre chat ?
Merlin.
Est-ce que c'est la première fois que vous faites ça ?
Non, ça fait plusieurs fois. Je sais que Pauline vient le mercredi après-midi, je prépare un livre en ce moment. C'est sur la gravure, justement.
Est-ce que c'est des activités que vous avez découvertes au temps du regard ? Le dessin, la linogravure.
J'ai découvert ça aux Acanthes à passer.
Donc ça fait longtemps que vous pratiquez ça ?
Ouais. Et avant, je faisais de l'argile aussi.
Toujours en accueil de jour, sur des ateliers comme ça ?
Oui.
Vous vous sentez comment quand vous faites de la création ?
Ça me libère de plein de choses. ça me libère du stress, tout ça. Et même mon chat, le matin, il voit bien que si je suis stressé, il vient à côté de moi, il me fait des câlins, et je suis content.
C'est quoi qui vous stresse ?
Bah, on ne sait jamais comment peut se passer la journée, comment on peut se terminer la journée, il peut y avoir plein de choses.
Et vous connaissez le temps du regard depuis quand ?
Depuis le début. Je suis là depuis les années 80, je fais du théâtre, je fais du cheval, du bowling, je fais de tout.
Plein d'activités avec cette association, quoi.
Ouais.
Donc les consignes, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Imagine une ville, un refuge, une maison idéale. Imagine une créature fantastique. Ou fais le portrait de quelqu'un, toi, un ami, ton chat. De quoi tu rêves ?
C'est quoi les motifs que vous avez dessinés ?
Des étoiles, une maison, un soleil, des vagues. Voilà.
C'est quoi votre prénom ?
Élodie.
Bah, Claire de Rennes, je viens entendre agir depuis 2007.
Est-ce que je peux vous demander si vous souffrez d'un handicap en particulier ?
Je suis hémiplégique de naissance, à gauche. C'est-à-dire que j'ai une paralysie partielle à gauche. Je peux me servir de ma main gauche et de ma jambe, mais de manière moins efficace qu'à droite. En fait, j'ai pas toute ma mobilité.
Vous avez pratiqué quelle activité avec le temps du regard ?
Du dessin, de la mosaïque, de l'équitation, des jeux de société.
Et vous venez toutes les semaines ?
Ouais, tous les mercredis, mais je viens qu'une fois par semaine, comparé à certaines personnes qui viennent plusieurs fois.
Qu'avez-vous fait ce matin ?
Du stop motion.
Vous pouvez m'expliquer un peu l'idée que vous avez eue ?
Bah là, c'était de faire un dessin qui évolue avec une boule d'argile qui grossit au fur et à mesure du dessin.
Et vous êtes trois sur ce projet-là ?
Oui, enfin trois, deux qui dessinent et le troisième qui filme et qui modifie la boule au fur et à mesure.
Vous aviez déjà fait ça ?
Non, j'ai déjà fait un peu de dessin animé, mais pas avec de l'argile et pas avec des volumes en fait.
Pourquoi vous venez ici ? Qu'est-ce que ça vous apporte, ces activités le mercredi ?
Pour occuper mes journées, sinon j'ai rien à faire.
Ouais. Vous êtes donc dans un atelier art plastique, vous vous sentez comment quand vous créez des choses ?
Ça dépend du support. Il y a des supports que j'aime faire, et puis il y a des supports qui sont trop difficiles en fait.
Est-ce que vous venez aussi pour rencontrer des gens ?
Pas spécialement, je sais que le service est fait pour ça à la base. Mais
c'est plus pour vous occuper.
Voilà, c'est ça.
Bon après-midi tout le monde.
Ouais, à 14h. Bah non, j'avance.
Au revoir.
Et merci.
Et bon appétit.
Merci, Renaud.
Et essaye de penser à dire bonjour à la cour aux Bretons de ma part.
Et j'essaierai de m'en rappeler.
Oui, d'accord.
Le temps du regard, c'est donc une association et qui, pour financer là, ces activités dont on parle, met des choses en place pour lever des fonds. On a deux événements à annoncer qui se déroulent au mois d'avril.
Le dimanche 14 avril à 15h, à la salle du Ponant à Passé, on a la chance d'accueillir la chorale Not in Rennes, qui est une chorale très importante. On aura la chance de voir sur scène 160 choristes.
Et dont les entrées sont reversées à l'association.
Et donc Not in Rennes chante pour le temps du regard.
Et donc le dimanche 28 avril, on a une course qui est organisée à Assigné par l'association Les Foulées d'Assigné. Il y a différents parcours pour les enfants, pour les adultes, et notamment une course féminine, puisque c'est la particularité de l'association assignolaise. Et donc, comme pour le concert, chaque participation va permettre de reverser 1 euro à l'association.
かす愛も心に花咲かす女の心に花咲かす忘れられない忘れない女の恋は一筋に かけたのよ。涙流して夜が更ける。一人ぽっち夜が更ける。面影抱きしめ夜が更ける。別れ間際に泣くのなら恋などしない、愛さない。女は悲しいものなのね。下に追いかける。たとえこの身が果てようとも命を焦がして恋をする。
Meiko Kaji avec le morceau Koini Inoshio, une nouveauté musicale qui a été présélectionnée par Yann, notre programmateur à la radio, et à retrouver sur un album Jinko Wataridori. C'est un 12 titres qui forme le premier disque de cette chanteuse et actrice japonaise cultissime. C'était sorti en 1972 et ça vient donc d'être réédité par le label français We Want Sounds. C'était le 23 février la sortie officielle. Vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B, sans doute sur le 94.0 ou peut-être aussi en ligne sur canalb.fr, où vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts des émissions salariées mais aussi bénévoles à tout moment du jour et de la nuit. On poursuit l'émission du jour avec un second reportage. Et il s'agit du deuxième épisode d'une série de portraits radiophoniques de bénévoles de Canal B. À l'occasion des 40 ans de la radio, on vous fait découvrir ceux dont vous ne connaissez peut-être que la voix. Aujourd'hui, c'est Yannick qui se prête au jeu. Depuis 2005, il anime Metal Injection, à écouter le dimanche de 21h30 à 23h.
40 ans, non ce n'est pas possible. 40 ans, 40 ans, 40 ans. 40 ans, mais 40 ans déjà, je n'ose pas le croire. 40 ans, 40 ans.
Oh, si c'est pas mignon.
Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur Canal B 94 MHz pour cette 708e de Metal Injection. Nous sommes le dimanche 17 mars 2024 et nous sommes dans la saison 19 de Metal Injection. Et tu es en compagnie de Yannick.
Bonsoir à chacun et chacune. Bonsoir Olivier.
Et moi-même Olivier pour une heure et demie de Metal en
Fury.
Nous allons tout de suite commencer mollo mollo avec deux groupes que nous affectionnons beaucoup, Yannick et moi. Il s'agit de Vanden Plas. Et d'un guitariste que Yannick adore.
Le Mick Mars, bien sûr, évidemment. Alors, c'est un petit peu plus péchu que Motley Crue. On commence avec du métal progressif, on n'en passe pas beaucoup dans Metal Injection. Bah, bonsoir, enfin, bonjour, je ne sais pas quand c'est diffusé. C'est Yannick de Metal Injection sur Canal B depuis octobre 2005.
Est-ce qu'on peut commencer peut-être par dire ce que tu fais dans la vie hors des studios ?
Beaucoup de choses, mais ce qui me fait manger, c'est mon métier d'enseignant, que j'aime beaucoup, mais vraiment, en plus.
Comment est-ce que tu es arrivé à Canal B ?
Oula, c'est une histoire un petit peu longue. En 2005, j'anime l'émission avec Olivier, donc, qui est co-animateur avec moi depuis le tout début. Et on avait des copains qui animaient une émission qui s'appelait Metallic Park, auparavant, sur Canal B. Et ils ont arrêté. Et c'était des copains à Olivier. Et donc, il a eu l'idée de contacter Yvan Chef-Chef. Voilà. Et de voir si on pouvait reprendre le créneau et si on pouvait faire l'émission. Alors, c'était au mois de septembre-octobre. Il nous a reçus. Super, voilà. J'ai eu une formation express technique par Yann. Et ses conseils me sont toujours utiles, comme vous pouvez l'entendre tous les dimanches. Voilà, c'est lui qui m'a tout appris en quoi 15-20 minutes à peine. On a fait quelques essais. Après, il nous a dit, bon, OK, on va le faire. Et puis, on a commencé les directs en octobre. Donc, c'était à 23h à l'époque. On était jeunes, donc on pouvait se coucher tard et se lever tôt.
J'espère que vous avez passé une bonne heure et demie en notre compagnie, voilà.
Voilà, dans Métal Injection sur Canal B 94 FM, toutes les semaines à 23h. J'espère que vous serez nombreux et fidèles au rendez-vous pour les prochains assauts métal dans Métal Injection.
Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence.
Même punition.
Au début, qu'on était à Bru, et jusqu'à ce qu'on soit au Gast, après, on a fait toutes les premières émissions en direct, et puis après, du fait de l'âge avançant, d'Olivier aussi, qui avait changé de travail, il devait se lever super tôt le matin, le lundi, etc. Donc là, on a demandé à ce qu'on puisse enregistrer l'émission le mercredi soir pour la diffuser le dimanche. Et on a choisi le mercredi soir parce qu'en fin de journée, on est sûr qu'il y ait au moins l'un de l'équipe qui est dispo, en l'occurrence moi. Voilà, il n'y a pas de conseil de classe le mercredi soir. On a eu d'autres camarades de jeu, on a eu Mickaël, Xavier, Nico, il y en a plusieurs qui nous ont accompagnés. Arthur, évidemment, qui est toujours là, mais qui était animateur, et Arthur qui nous aide toujours, bien qu'il soit parti en Espagne, aux États-Unis, il est rentré en France, il est sur Angers, là, actuellement. Et la playlist est toujours concoctée par moi, Olivier, et puis Arthur, voilà.
Il y a aussi Marion qui est là.
Alors Marion nous a accompagnés pendant plusieurs années. Là, elle était partie à Toulouse. Et puis là, l'horaire d'enregistrement, ça coince un peu. Donc, elle n'a pas repris. Bon, voilà, on continue à deux, on est bien. Voilà.
Sur le choix du métal comme cœur de l'émission, est-ce que ça a été une évidence de consacrer une émission à ce genre-là ?
C'est ce qui a fait qu'on s'est rencontrés, Olivier et moi, déjà. Parce que moi, j'écoute du métal depuis que j'ai 9 ans et demi, 10 ans. J'ai eu un grand frère, voilà. Et quand je suis arrivé à Rennes, c'était en 2002, par là. J'ai vu une petite annonce et il y avait des soirées métal qui étaient organisées sur Rennes. Et c'est là que j'ai rencontré Olivier. Et bah, on est amis depuis plus de 20 ans maintenant. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Arthur aussi plus tard, que j'ai rencontré Marion en 2004. Donc c'est une amie de très longue date également. Et en fait, c'est une musique qui réunit des gens et qui nous a réunis, nous. Donc oui, faire une émission de radio, ça pouvait être que du métal, évidemment.
Qu'est-ce que ce genre te procure comme émission ?
Ah là là, c'est... Ça dépend de quelle période de ma vie on parle. Quand j'étais gamin, les premières fois que j'ai écouté des morceaux de Metallica, de Manowar, d'Alice Cooper, il y avait, ou Judas Priest, il y avait une telle puissance là-dedans par rapport à ce que je pouvais écouter avant, c'est-à-dire la radio, ce qui passait à la télé. Michel Drucker, voilà, les Champs-Élysées, des trucs comme ça. Enfin, ça m'a retourné le ventre. J'avais des guilis dans le ventre, des frissons, des choses comme ça. Et ouais, émotionnellement, ce que ça apporte, beaucoup de calme, étonnamment. Enfin, ça dépend des titres, mais il y a des choses qui peuvent... Quand t'as passé une sale journée ou que ça va pas, t'écoutes certains disques et c'est une sorte de thérapie. Ouais, ça fait du bien. À l'instant, Olivier, sur les ondes de Canal B dans cette 708e édition de Metal Injection.
C'était l'ex-guitariste de Mötley Crüe, Ex, oui, on peut
oui,
dire.
Bah, oui, oui, voilà. Oui. Et s'est fait virer comme un malpropre.
C'était donc le morceau Loyal to the Lie, extrait de l'album de The Other Side of Mars. Et c'est une sortie 1313 LLC. Et c'est donc sorti le 23 février dernier.
Comment on pourrait décrire cette émission, son format, et puis la façon dont vous la construisez en équipe?
On essaye de promouvoir au maximum l'actualité métal locale. Voilà, pour ça qu'on a une page concert, avec concert à Rennes et en Bretagne. Voilà. On a reçu pas mal de groupes également du coin. Voilà, d'ailleurs, on lance encore un appel. S'il y en a qui veulent venir, la porte est ouverte. Il y a BZH Metal Injection sur Facebook, je peux le dire.
Oui, on peut le dire.
Voilà, vous contactez, message. On est un groupe où on aimerait bien passer, diffuser des titres, etc. Et tout. Il n'y a aucun problème. Des news metal, forcément. Et puis, la construction de l'émission, effectivement, on essaye de coller au maximum à l'actualité avec beaucoup de nouveautés. Donc, c'est tout un travail en amont auprès de labels. Et moi j'aime bien le côté métal un peu traditionnel, etc. Et puis il y a une culture aussi dans le métal et une période où on faisait les choses soi-même, etc. On échangeait les cassettes, on faisait les trucs. Voilà, c'était pas comme maintenant avec Internet. Et c'est vrai que pour ma part, j'aime bien passer force des groupes. Alors des fois il y a des trucs très connus, oui, mais passer des choses un peu underground, des groupes où même moi parfois je reçois ça de petits labels et je fais ah, je connais pas du tout. Bon. On passe, voilà. Autrement, oui, on passe des groupes mainstream, des mastodontes du métal, notamment, on fait une rubrique classique de la semaine, reprise de la semaine, et dans les classiques, ça, on l'avait fait dès le départ. C'est de dire, tiens, avant, il y avait quand même, ça vient de là, quoi. C'est une culture. Il y a une sorte de continuum, comme ça, dans l'histoire du métal, plus ou moins, d'ailleurs, avec les nouveaux styles émergents depuis les années 90-2000, où il y a des choses qui ont émergé comme ça, qui sont raccordées au métal, mais qui n'ont pas forcément cette filiation. Voilà. Donc c'est aussi faire l'histoire d'un genre aussi.
Quel temps ça vous prend pour préparer une émission avant l'enregistrement? Est-ce que c'est un truc qui du coup est dans votre tête un peu toute la semaine ou...
Ah oui, oui, c'est permanent. Là, on est mercredi soir, on va enregistrer l'émission. En fonction de ce qu'on passe, qu'on a pu passer, pas passer, les titres sont mis de côté pour la semaine suivante. Et dès demain soir, je recommence, on s'y remet, quoi. Bon, c'est un travail qu'on fait en distanciel parce que au tout début, en 2005, quand on a commencé, on se retrouvait tous chez Olivier. Alors, il y avait Michael avec nous. Et on était à trois à essayer de décider de ce qu'on allait passer. Et en fait, on était à trois à écouter de la musique en même temps. Dans un appartement, ce qui est un peu cacophonique, c'était un bordel sans nom. Bref, donc après on s'est dit, bon, peut-être qu'on prépare des morceaux chacun de notre côté, on voit ce que font les autres, tac tac, et on regroupe ça, et ce serait plutôt pas mal. Et c'est ce qu'on fait depuis maintenant, ouais, plus de 15 ans largement. Moi, pour ma part, entre ce que j'écoute, ce que je reçois, etc., rien que de préparer, j'en ai pour 2-3 heures, facile, ouais.
Et il y a le temps de l'enregistrement en studio, comment est-ce que tu le vis? Quelle place il a dans ta semaine?
Alors ça, c'est toujours un bon moment. Et comme dit Olivier, il fait les petits vieux, ils ont le club de domino. Tu vois, ils se retrouvent le dimanche, on joue au domino, à la belote, machin et tout. Nous, on a métal injection. Qu'on soit que tous les deux ou qu'on soit avec des copains ou avec des invités, etc. Ça, c'est pas la question. C'est vraiment un moment où on se dit, dans la semaine, pause, métal. Et on va faire plaisir aux gens, du moins on espère, parce qu'on se fait aussi plaisir.
Quel est ton regard sur ta voix? Est-ce que ça a toujours été facile de parler au micro? Est-ce que ça a été un apprentissage? Est-ce que le fait d'enregistrer l'émission, ça change aussi des choses?
Le fait de l'enregistrer, non, ça change pas grand-chose, puisque on fait très, 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 très peu de montage. C'est-à-dire qu'on fait des cuts s'il y a des blancs, des choses comme ça. Sinon, même quand il y a des invités, on leur explique que c'est du faux live. C'est-à-dire que... Il pose une question, le mec il se gourre, il fait hop, c'est pas ce que je voulais. Non, mais en fait, c'est pas grave. Si c'est pas propre, on s'en fout. C'est du métal, de toute façon, donc voilà. Et puis nous, on est amateurs, donc il faut aussi qu'il y ait un côté amateur. Enfin, je trouve que ça fait partie du jeu. Le regard que je porte sur ma voix, eh bien, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus chien fou à la radio. J'étais content, j'étais ouais, nanana, comme ça et tout. Maintenant, je parle un peu plus calmement. Je sais pas si c'est l'âge ou autre. Et puis. J'ai appris aussi, de par mon métier, comme je disais tout à l'heure, je suis enseignant, à gérer l'organe pour pas me retrouver avec les cordes vocales pétées au bout de 7 heures de cours en fin de journée. Donc, c'est pas un effort particulier pour moi de gérer ma voix. M'écouter, au début, j'avais du mal. Voilà. Mais depuis, j'ai beaucoup trop fumé. Donc, maintenant, je trouve que ma voix est plutôt agréable, donc ça me va. C'est un conseil que je ne donne pas. Hein. C'est pas bien, faut pas. J'essaie d'arrêter.
Non. Et oui, j'espère que ça vous a donné envie de griller des chipolatas et des merguez. Il s'agissait de Mutilation Barbecue avec le morceau Carcasse Compost, voilà, très inspiré. Il s'agit de l'album Amalgamation of Gore. Voilà, ça porte bien son nom. C'est une sortie Earsplit du 23 mars prochain, donc une avant-première.
Métallinjection.
Sur l'utilité d'une émission en radio associative, est-ce que tu as des retours ou de labels, de musiciens, voire d'auditeurs sur ce que ça peut apporter aux gens ?
Alors, des retours, on n'en a pas beaucoup. Quelquefois, quelques messages sur la page Facebook, dans la messagerie, etc. Les groupes, ouais, en général, quand ils viennent, qu'on reçoit... Alors, des groupes, on reçoit aussi des membres d'associations, voilà, tous ceux qui tournent autour du métal, et à chaque fois... Ils sont contents d'être venus. À chaque fois, ils font « Ah, on est bien reçus, c'est cool, c'est sympa, etc. » Autrement, ouais, l'utilité de ce genre d'émission sur une radio associative, bah, c'est que ce genre d'émission, sur la bande FM, on va dire, traditionnelle, il n'y en a pas, ou très peu, ou c'est hyper tard, ou c'est vraiment anecdotique. C'est un genre musical qui se démocratise relativement, quand même, il faut dire ce qui est. Mais c'est vrai que si on veut tourner la radio dans la voiture et écouter le poste, bon, ben, il y a Métal Injection sur le côté du métal le dimanche soir.
Tu as connu Canal B à Bru, tu as connu Canal B au Gast et maintenant à la Maison des Associations. Quel est ton regard sur cette radio qui a forcément évolué avec les années, dans ses équipes, dans ses missions, peut-être aussi dans son ADN, je ne sais pas.
À l'ADN, je ne sais pas, parce qu'en tout cas, pour nous, ça n'a pas changé. Donc, pour moi, c'est toujours le même état d'esprit. On est arrivé là en se disant, on va se faire plaisir, on va faire plaisir aux gens. Après, c'est vrai que des fois, on peut se poser la question de la diffusion FM avec les podcasts, etc. On dit, est-ce qu'un podcast se suffirait ? C'est vrai que c'est des questions d'évolution des technologies, ça. Après, est-ce que la radio, c'est un support qui est encore viable ? Un peu comme la télé, avec toutes les séries qu'on peut regarder par ailleurs sur des plateformes. Les gens n'ont pas besoin forcément d'attendre l'heure pour écouter, hein, comme nous on pouvait le faire quand on était, enfin je pense que je suis de ma génération, quand on était gamin, on fait « Ah, il y a ça à telle heure, il faut vite être devant le poste ». C'est sûr que là, on est beaucoup plus libre à ce niveau-là. Après, ouais, l'ambiance, non, si on n'a plus le droit de fumer dans les studios. Voilà, j'ai connu le temps où on pouvait fumer sa clope en enregistrant l'émission, voilà, c'est des choses qui changent. C'est pas plus mal, hein. Je dis pas ça en disant « Ah, c'était mieux avant, je vais pas faire mon vieux con ». Mais non, c'est une bonne impression. Je croise toujours Yann régulièrement, donc comme il est toujours là, pour moi, il y a comme quelque chose qui change pas. Voilà, c'est un repère, il y a des choses qui restent. Je croise les Grignoux aussi régulièrement, voilà, des repères.
Et d'un point de vue peut-être technique ?
Ah oui, oui. Là maintenant, même les labels, bon, pour des raisons évidentes d'économie, n'envoient quasiment plus de CD. Donc on reçoit beaucoup de choses en MP3, alors que les premières émissions qu'on faisait, on avait tout en CD, donc il fallait... avec les deux platines, faire les choses. Enfin, des fois, il y avait des gros bugs en direct parce que le CD rentrait pas, la platine bloquait. Enfin, c'était pas la bonne piste qui était calée. Plein de choses comme ça qu'on pouvait pas rectifier parce qu'on était en direct. Après, on est passé justement assez rapidement. Déjà qu'on était au Gast, ouais, on fonctionnait plus que par clé USB, voilà, MP3 Wave, etc. Et c'est vrai que c'est vachement plus pratique.
Est-ce qu'en presque 19 ans, il y a des liens pour toi qui se sont tissés avec des bénévoles sur d'autres émissions, sur des projets très différents
Au tout début, non, parce que c'est vrai que comme on venait le soir en direct, bon, on était tout seul, hein, on débarquait à 23h à Bru, donc pour croiser du monde, c'était compliqué, c'est sûr. Depuis qu'on est ici, là, à Charles de Gaulle, ouais, avec Purple Rain, on a fait pendant le Covid une émission ensemble. Quand on croise les Grignoux, on échange toujours un petit peu, forcément. Et puis, avec Agathe de Bonjouir, j'ai fait aussi, on a fait des interpénétrations radiophoniques pour ceux qui suivent. C'est-à-dire que comme ils sont juste après nous dans la programmation, donc on se fait des passations de micro, un petit peu tardives, on va dire. Voilà, donc un peu tendancieuses parfois, mais enfin, en même temps, c'est le concept. Et du coup, avec Agathe, oui, on échange pas mal. C'est une belle rencontre. Ouais.
Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée en compagnie des très frais Benjamin et surtout Dame Agathe de Bonjouir, à qui je glisse le micro, cette fois-ci de cuir clouté. Elle en fera ce qu'elle veut parce qu'ils font quand même des cochoncetés avec les bonnettes et tout ça. Là. Ah, c'est dégueulasse. Mais non, c'est du sexe, c'est propre. Allez, bonne semaine à chacun et chacune sur les ondes de Canal B, votre radio préférée. Quant à moi, eh bien, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, et évidemment, même punition.
Judas Priest avec le morceau Hell Patrol. C'était le choix musical de Yannick, dont vous venez d'entendre le portrait radiophonique. Et ce titre, c'est un morceau de 1990 à retrouver sur l'album Painkiller, le 12e disque à l'époque de ce groupe anglais de heavy metal. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'arène, une émission qui a quitté les réseaux sociaux depuis quelques mois, mais qui continue à présenter son programme à travers une newsletter, le courrier de l'arène. Je l'envoie chaque vendredi aux personnes qui sont abonnées. Et nous sommes vendredi, il est encore temps de m'envoyer un petit message à l'adresse lucie@canalb.fr pour vous aussi devenir abonné à cette newsletter. Avant de se quitter, la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils d'événements à vivre près de chez vous, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast, de documentaire ou pourquoi pas d'association à suivre. Alors aujourd'hui, de quoi occuper votre samedi ? Il y a d'abord le Polynarium de Rennes qui ouvre ses portes au public. Le Polynarium, c'est un espace qui est piloté par la ville de Rennes et dédié à l'observation des plantes allergisantes de la région. Pour découvrir ce lieu, rendez-vous samedi de 10h à 15h30 au square Lucien Rose à Rennes. C'est à l'intérieur du parc du Tabor. 6 visites guidées de 30 minutes seront proposées, notamment pour découvrir le travail quotidien des jardiniers qui y travaillent et qui alerte sur les débuts et fins d'émissions de pollen. Des informations qui sont transmises en temps réel aux patients allergiques et aux professionnels de santé inscrits à la newsletter Alerte Pollen. Vous pouvez la retrouver en ligne sur le site alertepollen.org. Une façon en fait pour les patients de limiter leur traitement médicamenteux à la période nécessaire. Deuxième conseil, rien à voir, c'est un atelier de couture engagé, direction Le Petit Blonneur à Rennes de 10h à 13h, toujours samedi. Une façon d'officialiser le lancement d'une antenne de Soie Rouge à Rennes. Soie Rouge, c'est une association de lutte contre la précarité menstruelle. Et samedi, eh bien, les personnes intéressées peuvent venir coudre, sur la durée de leur choix, que ce soit 10 minutes ou 3 heures. Et coudre quoi ? Eh bien, des serviettes lavables qui seront redistribuées à des personnes qui en ont besoin, tout simplement. Il sera aussi possible des échanger sur place sur des questions de récupération de tissus. Le détail est à retrouver en ligne sur le site soierouge.fr. L'arène, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de l'arène, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.